Comme tous nos clients prévoyants, mettez votre famille à l'abri avec l'assurance décès. Sounou Assurance, notre métier d'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler du désir féminin. Un sujet souvent évoqué dans les questions que vous nous posez, des questions sur l'intensité de ce désir qui n'est parfois pas à l'unisson, pas partagé de la même façon, au même moment. L'expression de ce désir, le dire, le taire, l'impact de la vie quotidienne après une tension, une dispute, un coup de fatigue, des interrogations qui montrent que le désir féminin peut constituer dans une certaine mesure un véritable mystère, parfois un sujet aussi d'incompréhension. Et cette dimension énigmatique, eh bien, elle concerne aussi parfois les femmes elles-mêmes, celles qui n'ont pas exploré toutes les facettes de leurs propres aspirations, envies, curiosités, en raison de l'éducation reçue, du contexte, de la société à laquelle on appartient, à une difficulté peut-être d'intégrer ce désir naturel dans sa vie de tous les jours et dans ses relations amoureuses. Alors, on attend, comme toujours, vos témoignages. Racontez-nous comment vous vivez avec votre désir, s'il a évolué au fil de votre vie, de vos expériences. Et si vous êtes un homme, comment, avec votre partenaire, fonctionnent vos désirs? Pour nous dire aussi si vous connaissez l'harmonie. Quel chemin avez-vous emprunté pour y parvenir? Questions, témoignages, la page Facebook de l'émission et le numéro, bien sûr, 33 84 22 75 75. Et une émission complète pour poser vos questions. Évidemment, à mes côtés, le docteur Catherine Solano, celle que vous attendez tous et toutes, sexologue. Elle est là pour répondre à toutes vos questions. Docteur Solano, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes nos auditrices. Je les cite en premier parce qu'on parle d'elles et à tous nos auditeurs aussi, bien sûr.
50 minutes. On va donc échanger sur ce thème du désir au féminin et vous êtes heureusement déjà nombreuses à nous appeler.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Solano, ma question pour commencer, parler du désir au féminin, c'est d'abord se débarrasser d'un certain nombre de fausses croyances, de préjugés. Par exemple, préjugés qui voudraient faire croire que les hommes, expriment ou ressentent davantage de désir que les femmes.
Oui, alors ça, c'est vrai que c'est une idée reçue très répandue. Et pour une raison simple, c'est que le désir masculin est beaucoup plus valorisé dans la société que le désir féminin. Si vous avez un homme qui dit « j'ai beaucoup de désir », on va se dire « ah, quel homme ». Si une femme vous dit « moi, j'ai beaucoup de désir sexuel », beaucoup de gens vont se dire « elle serait pas un petit peu obsédée, elle, vous voyez ?» Et donc, il n'y a pas du tout la même culture ni la même éducation. On apprend aux filles à ne pas montrer leur désir, à le cacher, à le réprimer. C'est une question d'éducation, alors qu'on le fait pas pour les garçons. Et je pense que c'est beaucoup lié au fait que les parents des jeunes filles ou des petites filles ont peur qu'elles tombent enceintes, en gros, c'est ça. Alors que maintenant, il y a quand même une contraception. Et plutôt que d'éduquer à annuler son désir, on ferait mieux de les éduquer à le prendre en compte et de savoir assumer une contraception avec leur copain le jour où ça se présente, vous voyez.
Mais alors on peut dire qu'il y a...
Et est-ce que je peux rajouter une chose?
Bien sûr.
Pas plus tard qu'hier, j'ai eu en consultation une femme donc, qui est mariée avec son mari, ils étaient tous les deux, elle m'a dit « moi quand même j'en ai marre, c'est tout le temps moi qui demande à mon mari à faire l'amour, il n'a jamais envie, quand même on est une femme et on a des désirs » et elle me dit « j'aimerais bien au moins qu'il vienne vers moi une fois par mois, je demande pas tous les jours, mais quand même, c'est moi qui suis toujours obligée de faire le premier pas. » Donc, c'est vous dire que même en consultation, on voit des couples où c'est le mari qui va pas souvent vers sa femme.
Alors justement, désir stimulé, cette demande de cette patiente que vous venez de citer, désir provoqué, ressenti de façon instinctive, naturelle. Est-ce qu'on doit justement distinguer les deux quand on va dire cultive son désir et d'un autre côté, eh bien quand on voit quelqu'un, on va dire on parle du coup de foudre, mais au-delà de ça, c'est un véritable désir ressenti.
Oui, alors il y a plusieurs sortes de désirs et je trouve que c'est une bonne question Caroline parce que souvent les personnes que je vois ne se rendent pas compte de ça. D'abord, il y a un désir pulsionnel. J'irais c'est un désir qui vient de l'intérieur de vous. Vous regardez votre partenaire, vous avez envie, mais c'est parce qu'il y a une espèce de force en vous. L'autre n'a rien fait, il peut faire la vaisselle ou est en train de jardiner, vous voyez, rien de spécial. C'est de désir pulsionnel. Et puis, il y a beaucoup d'autres désirs. Il y a le désir de réponse. C'est-à-dire que votre partenaire vous dit « moi, j'ai envie de toi, j'ai envie de faire l'amour ». Et vous étiez en train de lire le journal, par exemple, et vous vous dites « ah, pourquoi pas ?» Et hop, votre désir vient. Il y a aussi un désir qui vient sans que votre partenaire vous dise ça, mais face à un il ou elle fait un petit quelque chose qui vous donne envie. Pas forcément parce qu'il a envie de faire l'amour, hein. Vous dites, oh tiens, vous voyez par exemple une épaule qui se découvre et vous dites, ah, ça me donne une petite envie, voilà. Mais il y a encore beaucoup d'autres sortes de désirs. Vous avez parlé d'autres, Caroline, ça m'a énormément intéressé ce que vous avez dit tout à l'heure, la curiosité. Eh bien, il y a beaucoup de jeunes, leur première fois, surtout les jeunes filles peut-être, c'est pas trop du désir sexuel, mais elles se disent, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que
territoire
c'est.
Territoire inconnu.
Voilà, territoire inconnu. Puis, il y a le désir basé sur la tendresse. Vous vous faites un petit câlin, vous n'avez pas spécialement envie de faire l'amour, et puis, en faisant un câlin, vous vous dites, oh, bah, on ira un peu plus loin.
Ça s'appelle de fil en aiguille.
Ah, mais il y a aussi le désir réconciliation. Vous êtes fâchés tous les deux et vous êtes malheureux. Donc, vous dites, comment faire pour se rapprocher? Ben, c'est ce qu'on appelle la réconciliation sur l'oreiller. Et puis, il y a un désir très important que je voudrais que tous nos auditeurs et auditrices écoutent. C'est le désir par décision. Se dire, demain, les enfants ne sont pas là, on va faire l'amour. Bon, on n'a pas spécialement envie, mais on peut se dire, ben, je vais me parfumer, je vais me coiffer, je vais lâcher mes cheveux, mon conjoint préfère quand je suis comme ça, il me trouve plus désirable. Je vais mettre une musique qui va déclencher du désir, un slow, une musique romantique. On va mettre des bougies ou une lumière d'ambiance, ou ça peut faire un petit plat, je sais pas, chacun a ses petites truc pour déclencher le désir, et on peut faire l'amour sur décision parce que on crée les conditions pour que le désir survienne. Donc vous voyez, il y a plein de manières d'avoir envie, et c'est très important de le savoir, parce que beaucoup de couples qui ont des problèmes à ce niveau-là disent, mon partenaire n'a jamais envie, ma partenaire n'a jamais envie, bah ils se disent, bah elle devrait avoir envie, il devrait avoir envie. Ben non, il y a des recettes pour ça.
Alors on va justement donner la parole aux auditrices et aux auditeurs de l'émission.
Priorité santé sur RFI.
Première auditrice qui nous appelle de République démocratique du Congo, de Mbandaka, c'est Vivine. Bonjour Vivine. Vivine, vous êtes avec nous ?
Oui, bonjour.
Bonjour, on est à votre écoute, le docteur Catherine Solano est là, allez-y.
Bon, moi j'ai remarqué un petit changement, parce que quand je me suis mariée, tout allait bien. Après avoir eu mon premier enfant, ça a compliqué. Je n'ai plus vraiment besoin de faire l'amour. Bon, ça m'arrive difficilement, ça me stresse, enfin, je deviens un peu inquiète. Et c'est comme ça que je voulais demander au docteur qu'est-ce qui m'arrive et qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, parce que mon mari aussi s'est plaint.
Vivine, il a quel âge ce bébé ?
Il a 1 an.
Alors la question de Vivine, hein, docteur Solano, c'est aussi l'impact justement de la maternité, et puis le fait de s'occuper tous les jours, de jour comme de nuit, de ce bébé, est-ce que ça a un impact sur la libido, sur le désir ?
Alors, bien sûr, quand on vient d'accoucher, pendant plusieurs mois, une femme n'a pas de désir. Tout simplement à cause des hormones qui chutent tout d'un coup. Et donc, au moins 3 mois, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an. Je connais même une dame qui m'a dit, moi, ça a duré 2 ans. Et un beau matin, je me suis réveillée, je me suis dit, tiens, j'ai envie à nouveau. Donc, vous voyez, ça dépend des femmes. Donc, c'est important de savoir que c'est normal au début, et pas seulement pendant 15 jours, hein, pendant plusieurs mois. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, donc ça, c'est les hormones. Deuxième chose, si on allait un bébé, il y a une hormone qui s'appelle la prolactine, qui reste assez haute pendant aussi plusieurs mois, et donc qui bloque le désir, parce que c'est fait par la nature pour qu'on s'occupe du bébé en priorité avant son mari. Donc ça, c'est normal. Ensuite, vous en avez parlé, Caroline, il y a le sommeil. Quand on a un enfant qui fait ses nuits au bout de 8 jours, ça arrive, c'est magique, on se repose très bien. Quand on a un bébé qui fait ses nuits au bout de 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans chez certains, ben on est extrêmement fatigué, et la fatigue, ça bloque le désir aussi. Donc, est-ce que vous êtes un petit peu dans un de ces cas-là ?
Vous dites, hein ?
Vivine, est-ce que vous allaitez ou vous avez allaité très longtemps votre bébé, ou
est-ce que vous dormez
tout simplement ? Est-ce que le bébé fait ses nuits ?
Non, c'est un enfant bruyant. Il allait, il dérange.
Ouais. Donc, vous êtes là pour le bébé, il prend beaucoup de place.
Ouais. Donc, alors, Ensuite, j'ai beaucoup de conseils pour vous. Vous disiez que vous ressentez pas beaucoup de choses, je crois, de sensations. Et ça, c'est vrai que après une grossesse, le bébé étant passé par là, les tissus sont étirés et donc c'est bien de faire ce qu'on appelle de la rééducation périnéale, c'est-à-dire de remuscler les muscles qui servent à serrer le vagin. Donc, du coup, on retrouve, en faisant des exercices comme ça, on retrouve des muscles autour du vagin qui sont plus toniques et on retrouve des sensations. Et puis, il y a quelque chose qui me frappe énormément, c'est votre phrase « mon mari se plaint beaucoup ». Eh bien, je vais vous dire une chose, tous les hommes qui nous écoutent, c'est pas un homme qui se plaint qui vous donne du désir. Un homme qui dit à sa femme « moi, j'en ai marre, t'as jamais envie », eh ben ça vous donne pas envie du tout. Donc, on a eu déjà à l'antenne des hommes formidables qui nous ont appelés, qui nous ont dit « moi, ça m'a frappé. Quand ma femme a accouché, elle avait plus du tout envie pendant longtemps. Et je me suis dit, il faut que je reséduise ma femme, comme si c'était une nouvelle femme. Il faut que je lui redonne du désir. Et donc, c'est à l'homme de faire des efforts, pas à la femme. » Pourquoi ? Parce que la femme, elle a eu sa grossesse, elle a pris des kilos, il a fallu les reperdre. Le bébé est passé par sa zone génitale, elle a été tirée, elle a eu peut-être une épisio, peut-être une déchirure, elle a saigné longtemps, elle allaite, c'est pas toujours évident, elle dort pas, elle est fatiguée, et son mari lui dit, tu pourrais faire un petit effort, moi j'en ai marre. Eh ben non, moi je trouve vraiment qu'à ce moment-là, c'est à l'homme de reséduire sa femme, de lui dire qu'elle est belle, de lui faire des câlins, de lui faire des cadeaux, de lui dire, tu es formidable d'avoir fait un aussi beau bébé, aussi énergique, pour le vôtre. Hein. Je comprends que tu sois fatiguée.
D'ailleurs, je vais t'aider.
Merci Caroline. Je vais t'aider pour que tu puisses te reposer. Et ça n'empêche pas qu'il peut lui dire, tu sais, moi je te désire, j'aimerais faire l'amour avec toi. Mais pas qu'il la harcèle, sinon ça va être encore pire. Donc là, je connais pas votre mari, je veux pas non plus dire qu'il est abominable, parce que forcément, quand on a une femme et un bébé tout jeune, en général, on est amoureux et on a envie que ça marche. Mais c'est vraiment à lui de faire des efforts et d'arrêter de se plaindre. Il peut se plaindre dans sa tête, parce que c'est vrai que c'est pas évident, mais pour vous donner envie, c'est pas la meilleure méthode. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Vivine ?
Oui, je vous ai bien écouté. Mais qu'est-ce que je peux faire pour y remédier, personnellement ?
Alors vous, ce que vous pouvez faire, je disais déjà, demandez de l'aide à votre mari pour vous reposer. Parce que plus vous serez fatigué, moins vous aurez envie.
Vous accordez un petit peu de temps, c'est ça ?
Oui, du temps pour vous et pour même que votre mari puisse des fois vous dire « je m'en occupe cette nuit, s'il se réveille, s'il pleure, je me lève ». Ensuite, remusclez votre périnée de manière à ce que vous ressentiez plus de choses quand vous faites l'amour. Utilisez du gel lubrifiant pour ne pas avoir mal, parce que quand on a mal, on a encore moins envie. Et puis, peut-être, vous motiver, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que vous dire qu'est-ce qui me donne envie, moi, d'habitude, qu'est-ce qui me donnait envie avant, et essayer de trouver les conditions qui vont vous donner envie.
Se mettre en situation,
et peut-être vous motiver pour faire l'amour, même si vous n'avez pas énormément envie, vous dire ça va quand même peut-être être agréable, mais jamais vous forcer. On peut se motiver, mais pas se forcer. Ça, c'est important. Et puis, ça va revenir petit à petit, parce qu'au bout d'un an, c'est tout à fait normal, ce qui vous arrive.
Voilà, Vivine, pour ces conseils du docteur Catherine Solano. On vous souhaite une excellente journée à Mbandaka. On part tout de suite pour le Burkina, retrouver à Ouagadougou Françoise. Françoise, bonjour.
Bonjour.
On est à votre écoute. Le docteur Catherine Solano est là pour répondre à vos questions. Allez-y.
Ok. Moi, j'ai un problème. Je n'arrive pas à identifier mes désirs parce qu'ils sont très brefs. Et aussi, je n'arrive pas à atteindre l'orgasme.
Vous avez un compagnon ? Vous avez une vie amoureuse en ce moment ?
J'ai un compagnon, oui.
Alors,
je ne suis pas en couple.
Vous n'êtes pas en couple. Mm-hmm. Et qu'est-ce que vous avez comme question précise donc à poser au docteur Catherine Solano ?
Je voudrais savoir comment identifier mes désirs. Comment les faire durer et comment atteindre l'orgasme.
Alors là, je pourrais vous écrire 3 livres pour vous répondre, donc c'est pas très facile. Mais la première chose, c'est que quand on n'a pas beaucoup de désir ou qu'il est très bref, comme vous dites, souvent, c'est qu'il y a quelque chose, une ou plusieurs choses qui bloquent le désir. Ça peut être la peur, ça peut être une mauvaise expérience que vous avez eue avec votre premier petit copain ou dans l'enfance, par exemple, des attouchements ou des remarques ou des critiques, enfin, etc. Donc, essayez de comprendre déjà s'il y a des choses qui bloquent votre désir comme ça. Est-ce que, quand je vous dis ça, ça vous évoque quelque chose?
Oui. Les premiers rapports sexuels ont été douloureux. Je me dis que ça date dû à ça.
Et ça a été, parce que ça soit un petit peu douloureux la première fois, ça peut être normal. Mais si votre partenaire est, comment dire, attentionné, qui vous dit, vous sentez qu'il a pas envie de vous faire mal, qu'il vous respecte, ça va. Si vous sentez qu'il s'en fiche totalement et qu'il se dit, moi, je veux le faire, ça peut être affreux, hein. Donc,
Est-ce que ces premiers rapports sexuels, Françoise, vous disiez qu'ils avaient été douloureux, ils se sont passés dans la douceur ou, d'après votre souvenir, entourés d'une certaine violence ou des choses que vous n'aimiez pas?
Oui, ça n'a pas passé dans la douceur comme il le faut. Mmh.
Donc vous en gardez un mauvais souvenir, après ça vous a perturbé, vous étiez déçu?
Oui.
Vous étiez déçu ou vous étiez choqué?
J'étais déçu.
Déçu.
Ben ça, je pense que vous pouvez, par exemple, le dire à votre compagnon, lui dire, tu sais, moi, mes premières fois se sont pas bien passées. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai peur et que je suis pas forcément bien. Ça, c'est important parce que déjà, s'il le comprend, il sera plus attentionné a priori et ça aide beaucoup. Ensuite, il y a une question, c'est est-ce que vous prenez un médicament, y compris une contraception?
Non, je ne l'en prends pas.
Bon, je vous posais la question parce qu'il y a des femmes chez qui la pilule, certaines pilules ont tendance à freiner leur désir. Donc, c'est important de se poser la question. Et donc, ce qui est important, c'est de vous observer aussi et d'observer, même si votre désir est bref et pas très fréquent, ceux qui vous donnent du désir.
Est-ce que vous, justement, vous avez identifié par rapport à ce que disait le docteur Solano, que je laisse reprendre son souffle, est-ce que vous arrivez, par exemple, à en parler avec votre partenaire, lui dire « je suis bien avec toi, mais il y a des choses qui m'empêchent d'aller vraiment jusqu'au bout de nos désirs ». Est-ce que vous en parlez avec lui ou c'est compliqué?
C'est compliqué. Ouais. Je n'arrive pas à en parler avec lui.
Vous ne pouvez pas ou vous n'avez pas envie?
J'ai peur d'en parler.
Vous avez peur d'en parler.
Vous avez peur. Vous avez peur qu'ils vous aiment plus ou qu'ils vous disent mais tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas normale, quelque chose comme ça?
Oui, que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas normale.
Voilà. Alors, beaucoup de personnes ont cette peur et en fait, personne n'est pareil. On a tous des peurs. Vous savez, par exemple, vous êtes une femme, vous avez peur. Mais je peux vous dire que votre compagnon, il a peur aussi. Moi, j'en vois beaucoup des hommes en consultation. Tous les hommes ont peur d'avoir un pénis pas comme il faut, d'avoir une éjaculation trop rapide, d'avoir une panne, d'être un partenaire nul et que sa femme ou sa compagne dise « mais il est vraiment pas doué au lit ». Donc, il faut pas vous sentir en infériorité. C'est pas l'homme qui juge. On est deux ensemble. Vous voyez, ça, c'est important. Et puis, je veux rajouter une chose, c'est que vous dites j'ai pas d'orgasme, j'ai pas énormément de désir ou il s'arrête très vite. Il y a une question très importante, c'est est-ce que votre partenaire vous fait beaucoup de caresses avant la pénétration? Parce que si vous voulez, beaucoup de femmes ont besoin de préliminaires, c'est-à-dire de caresses, de baisers, de câlins, sur la zone sexuelle peut-être, mais aussi un peu partout sur le corps, pour que leur désir monte, que leur excitation monte et pour avoir du plaisir. Est-ce que votre partenaire, vous vous dites, il est à la hauteur pour ça?
Oui, il est à la hauteur pour
ça. Ah, alors, il faut lui dire. Parce que lui dire, tu es super pour ça. Ça, c'est important. Donc, de ce côté-là, ça va. Donc, je pense que vous êtes ensemble depuis combien de temps?
2 ans.
2 ans, d'accord. Est-ce que vous sentez qu'il y a un progrès au niveau de votre désir, que ça s'améliore petit à petit?
Oui. Ça s'améliore petit à petit.
Voilà. Je pense que ça, il faut lui dire. Ça serait vraiment une bonne idée de lui dire, tu sais, au début, j'avais très peur parce que j'ai eu des mauvaises expériences avant. Et grâce à toi, petit à petit, ça va de mieux en mieux. Et vous lui dites, mais je sens que je peux encore m'épanouir davantage, avoir plus de plaisir. Il faut lui dire ça pour l'encourager et qu'il soit, comment dire, qui se sentent contents de vous rendre heureuse, quoi, voyez ?
D'accord.
Alors aussi, je rajoute une dernière chose par rapport à l'orgasme. La plupart des femmes ont beaucoup plus facilement un orgasme à partir du clitoris, des caresses sur le clitoris, que par la pénétration vaginale. Donc peut-être qu'il faut l'inciter à vous faire longtemps des caresses au niveau du clitoris.
D'accord.
Voilà Françoise, on vous souhaite une très bonne journée à Ouagadougou. On va poursuivre les échanges tout de suite avec nos auditeurs, cette question du jour consacrée au désir féminin. Et on donne la parole à un homme, il appelle du Sénégal de Dakar et c'est Marley. Bonjour Marley.
Bonjour.
Le docteur Catherine Solano est à votre écoute, allez-y.
Ah, le désir, j'ai actuellement des problèmes avec la femme. À cause du désir, parce que elle était à la maison là, on se désirait tout le temps, même durant la journée. Il suffit juste qu'elle passe devant moi, j'ai le désir quoi. Les femmes sénégalaises, elles, quand elles ont envie, elles le montrent et tu le sens quoi. Et c'était le désir parfait. À chaque fois, j'avais envie d'elle, elle me désirait, je la désirais. Bah, depuis, ça fait quelque temps maintenant que je lui ai trouvé du travail. Bon, je l'ai encouragé même à aller travailler. Comme je voyais à chaque fois, elle était là, elle ne faisait rien, elle avait le diplôme. Elle a commencé à travailler, cela fait 6 mois. Bah, là, je sens plus, je la sens plus. C'est comme si elle ne me désire plus. Tout le temps, elle m'ignore. Quand elle revient au travail, elle est sur son téléphone. Tu vois, j'ai juste droit à un bisou. Et c'est tout. Durant toute la journée, je ne la vois pas, la nuit aussi. Elle n'a pas envie de faire l'amour. Elle me dit qu'elle est fatiguée à cause du travail. Elle est sur son téléphone, toutes ces choses-là. Et moi, je me demande, est-ce que réellement, il ne se passe pas quelque chose? Parce que la nuit, elle a juste envie que je lui caresse son sexe, c'est tout. Elle est satisfaite. Le matin, elle prend son déjeuner, elle prend son téléphone, elle part travailler. Et là, je ne sais plus quoi faire parce qu'il y a une grande distance entre nous. Je sens qu'elle ne me désire plus ou bien elle n'a plus de temps pour moi. Mmh. Je ne sais pas si c'est à cause de son travail qui est un peu stressant. J'ai essayé de lui en parler la nuit, mais elle ne veut pas. Elle me répond brièvement et puis elle répond sur son téléphone. Et c'est quelque chose qui m'étonne. J'ai l'impression qu'elle ne me désire plus parce qu'elle n'a plus de temps pour moi. Mmh. Et moi... Bon, c'est, si j'ai cette impression-là, je la désire plus, quoi. Des fois, mm-hmm. j'essaie de parler avec elle, mais elle ne me donne jamais des réponses satisfaisantes. Mm-hmm. J'ai tout essayé, mais jusqu'à présent, j'ai ce problème-là, quoi. Et mm-hmm. je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si c'est dû à son nouveau travail, à son nouveau mode de vie. Toutes ces choses-là, elle n'a plus de désir, en tout cas mm-hmm. pour moi. C'est ça.
Et ce que je me dis, ce qui vous fait souffrir, là, c'est pas seulement son manque de désir, mais que vous avez l'impression de ne pas être aimée, parce qu'elle, non seulement elle n'a pas de désir, elle vous dit qu'elle est fatiguée, mais elle évite de parler avec vous aussi. Donc elle voilà, a de la distance.
Il y a une très grande distance, parce qu'au début, il y avait du désir partout. Mm-hmm. Le matin, dès qu'on se regarde, j'ai du désir pour elle, quoi, parce que... C'était une vraie passion. On était là tout le temps. Il y avait du désir. Il suffit juste qu'elle me regarde là. Je peux comprendre. Elle a envie de moi.
Et est-ce que vous lui avez dit, tu sais, moi, je me sens malheureux parce qu'avant, je sens qu'on s'aimait beaucoup, qu'on se désirait, qu'on était très proches. Et là, je sens qu'on a beaucoup de distance et moi, ça ne me va pas. Je me sens malheureux. Est-ce que vous lui avez dit ça?
J'ai essayé, j'essaie à chaque fois, mais ça ne marche pas. À chaque fois, elle me répond brièvement. Elle me dit, tu sais, je suis fatigué, je pars travailler. Mm-hmm. Le bureau, c'est pas facile et toutes ces choses-là. Je n'arrive pas du tout à la comprendre. Je ne la reconnais plus, en fait.
Marley, excusez-moi, est-ce que vous avez parlé de vos sentiments? Pas simplement de votre désir. On sent que vous êtes en manque, on va dire, hein, une sorte de frustration. Mm-hmm. Mais est-ce que vous avez parlé de vos sentiments, ce que vous ressentiez, justement, quand elle ne vous répond pas?
Bah, J'ai essayé, mais elle ne veut pas tout, elle ne veut pas répondre. Ce qu'elle veut, c'est d'être sur son téléphone tout le temps et parler avec d'autres personnes. Là, j'essaie de la désirer au maximum possible. Elle n'a pas du tout envie. Elle a juste envie que je lui caresse son sexe 3 minutes, 2 minutes, c'est tout, quoi. Elle se couche le matin aussi. Il n'y a rien, quoi, en fait. Ça fait 3 mois que ça se passe comme ça.
Et est-ce que vous vous êtes posé la question en vous demandant, mais est-ce qu'elle a rencontré un autre homme pour mettre autant de distance avec moi?
Bah, je me suis posé cette question-là, mais finalement, je me suis dit que ce n'était pas la bonne piste. Mm-hmm. Parce que voilà quoi, telle que je la connais, elle n'est pas ce genre de personne-là. Mm-hmm. Ce qui m'inquiète de plus, c'est qu'elle n'arrive plus du tout à parler ce qu'elle ressent, quoi. Moi, des fois, j'essaie de l'écouter, de comprendre ce qui se passe réellement, pourquoi elle n'a plus ce désir-là pour moi. Mm-hmm. Et là, ce que je vois, c'est son travail, et je me dis que ça ne vaut pas le coup.
Est-ce que vous lui avez dit ça? Moi, je préférais quand tu ne travaillais pas.
J'ai essayé de l'expliquer. Elle m'a dit non, moi, je préfère quand je travaille parce que là, je n'ai plus de temps quoi, pour parler. J'ai juste le temps pour aller travailler parce qu'elle commence aussi à se voir dans le travail. Et j'ai l'impression qu'elle désire plus son travail que moi, son homme qui lui a encouragé pour aller travailler.
Et ça, c'est difficile. Comme là, vous posez la question en fait de l'équilibre de vie entre vie amoureuse, vie de couple et travail. C'est-à-dire que il y a des personnes qui donnent toute leur énergie à leur travail, et d'ailleurs souvent ce sont des hommes, hein, entre, j'irais, 25 et 35 ans, qui se disent c'est l'âge de faire ma carrière, et leurs femmes sont parfois très frustrées parce qu'ils travaillent tout le temps. Quelquefois, comme vous, c'est les femmes, mais dans le sens où souvent les femmes doivent s'occuper des enfants, de la maison et de leur travail et de leur mari, et ça fait beaucoup, elles sont fatiguées, elles ont du mal. Et c'est vrai que dans un couple, il y a la question de trouver l'équilibre entre la vie professionnelle, d'avoir des revenus suffisants pour vivre quand même dans une certaine sécurité, et puis la vie familiale, la vie de couple. Et ça ne peut se résoudre, on peut trouver l'équilibre seulement si on communique. Et là, vous avez le problème qu'elle n'a pas l'air de vouloir communiquer. Donc, peut-être que vous pourriez essayer aussi par rapport à des personnes de sa famille, s'il y a des personnes autour d'elle ou des copines qu'elle écoute et avec qui elle parle, leur dire, est-ce que vous pourriez lui dire que si on continue comme ça, on va dans le mur, parce que on se parle plus, on fait plus l'amour, mais on est plus proche, on s'éloigne. Et à un moment, quand un couple s'éloigne, ben, ça va pas durer. Vous n'avez pas envie de rester toute votre vie avec une femme qui veut pas vous parler, qui veut pas faire l'amour et qui vous dit, écoute, moi, mon travail compte plus que toi. C'est ça le problème.
Ouais, c'est ça en fait. Vous avez tout résumé.
Et vous en avez parlé autour de vous ou c'est resté pour l'instant un petit peu votre secret?
Non, c'est un peu le secret parce que ici les gens ont tendance à déformer les faits. Donc,
Non, si vous en parlez à quelqu'un,
quelqu'un
de confiance, soit c'est pour, bon, par exemple, quelqu'un comme un psy, mais pour vous soulager, soit vous allez réfléchir qui est la personne de confiance qui pourrait lui dire quelque chose, lui dire, tu sais, tu es en train de faire une bêtise, tu as un homme qui t'aime, qui a vraiment envie d'être avec toi, toutes les femmes peuvent pas en dire autant, donc rends-toi compte que c'est un trésor, hein, vous vous entendez vraiment bien. Qu'est-ce que tu es en train de faire comme bêtise, là?
Et qu'il y a aussi moyen de concilier travail et vie amoureuse.
Et puis
on n'est pas obligé de faire un choix entre les deux.
Voilà, on n'est pas obligé de faire un choix entre les deux. Peut-être que vous ne ferez pas l'amour autant de fois par jour si elle travaille, d'accord? Mais on peut quand même rester proche, parler, etc. Que quelqu'un lui la secoue un petit peu en lui disant « Pense à ce que tu es en train de perdre, là, si tu continues comme ça, vous voyez ?» Mais il faut que ce soit quelqu'un de confiance qui ne va pas propager ça dans tout le quartier. Ça, je suis d'accord avec vous.
Voilà Marley, voilà pour ces conseils du docteur Catherine Solano. On vous souhaite une très bonne journée à Dakar et on va partir pour Brazza, le Congo-Brazzaville, où nous sommes en ligne avec Enacha. Enacha, bonjour.
Bonjour.
Alors, le docteur Catherine Solano est à votre écoute, allez-y.
Bonjour docteur.
Bonjour Enacha.
Mais je voudrais savoir, j'ai une question, je ne suis pas en couple et je n'ai pas de relation. Ça fait au moins plus de 6 mois. Mm-hmm. Maintenant, je voulais savoir, ma question est de savoir si c'est possible de ressentir du désir envers une personne dont on n'est pas amoureux.
Ah, c'est une question
parce
très
que
intéressante.
Parce que c'est ce qui vous arrive actuellement.
Vous avez rencontré quelqu'un, vous avez du désir pour cet homme ou ce garçon, et a priori, vous n'avez pas l'impression d'être amoureuse, c'est ça?
Oui, je ne suis pas amoureuse, c'est une personne avec qui on partage du temps ensemble, quelquefois un peu prendre du pot, un peu de pot, ensemble, mais en tout cas, je ne suis pas amoureuse de cette personne. Mais à chaque fois qu'on est ensemble, je ressens du désir envers cette personne. Et je veux savoir
comment ça se fait
à cela et pourquoi.
Alors déjà, c'est vrai que le désir et l'amour, c'est pas du tout la même chose. Alors évidemment, heureusement, quelquefois, même souvent, ça va ensemble. Mais ça, c'est pas forcément exactement au même moment. C'est-à-dire que on peut très bien être attiré, désirer une personne qu'on n'aime pas. Par exemple, une personne qu'on se dit c'est un sale type pourtant, mais je ressens une attirance, ou c'est une personne qui me conviendrait pas du tout, avec qui j'aurais pas envie de faire ma vie, parce que il y a des choses très inconscientes dans le désir. On peut souvent, on est attiré par des personnes qui ressemblent à des personnes qu'on a connues dans l'enfance et qu'on a aimées, par exemple. Et puis, on peut aussi être amoureux, aimer quelqu'un très profondément et ne pas avoir de désir. Souvent, pendant une période, soit parce que on vient d'accoucher, alors là, on a beau aimer son mari, quand on est une femme, on n'a pas de désir, soit parce qu'on est dépressif, on est en dépression, donc là, on n'a plus de désir même quand on aime la personne, soit parce qu'on est fâché pour quelque chose, on a du ressentiment, etc., soit parce qu'on prend des médicaments, enfin, il y a des raisons pour lesquelles on peut aimer sans avoir de désir, soit parce qu'on est extrêmement fatigué aussi, par exemple. Donc, et là, dans votre cas, je pense qu'il y a plusieurs choses vraiment intéressantes. La première, vous dites, je ne suis pas en couple depuis 6 mois. Alors, quand on n'a pas d'amis, pas de relations sexuelles depuis longtemps, votre cerveau cherche dans le monde extérieur quelqu'un qui pourrait lui convenir. Et là, il vous dit, tiens, peut-être que, vous voyez, il y a un petit truc comme ça, une force intérieure comme ça. Et la deuxième chose qui me semble très importante, c'est que vous dites, c'est quelqu'un avec qui je discute beaucoup. Et quand on discute avec quelqu'un, quand on se sent proche, de quelqu'un par la parole, parce qu'on se confie des choses, etc., ça peut déclencher du désir. La parole, vous voyez, le désir n'est pas déclenché seulement par l'esthétique, par la beauté de quelqu'un, par ses paroles de désir, mais aussi parce qu'on comprend la profondeur de cette personne. Et donc, c'est un ami pour vous, si j'ai bien compris. Et donc, ce qu'on sait en sexologie et par les recherches, c'est que souvent, les meilleurs couples qui durent le plus longtemps, qui s'entendent le mieux, sont ceux qui ont été amis avant de devenir amants et avant de se dire finalement on était amis, mais est-ce que c'est pas un petit peu plus entre nous ? Alors, je dis pas du tout ça pour vous encourager à sortir avec cet homme si vous vous sentez pas du tout amoureuse, mais peut-être que vous pouvez vous dire, est-ce que finalement c'est pas une sorte d'amour tout à fait différente du coup de foudre ou de l'attirance au premier regard, voyez ?
Et Nacha, vous avez dit ressentir du désir pour cet homme, est-ce que vous lui avez exprimé ou quand même pas ?
Non, je ne l'ai pas exprimé.
Vous avez raison. Il vaut mieux que le désir soit en phase avec notre intelligence. C'est-à-dire, quand on a du désir, c'est bien de pas de foncer directement, mais de se dire, est-ce une bonne idée ? Parce que si c'est quelqu'un, je ne dis pas pour lui, mais si c'est quelqu'un de violent ou quelqu'un de qui vous mérite pas, je dirais, ou quelqu'un qui vous convient pas du tout, ou si c'est le mari de votre meilleure amie, c'est pas une bonne idée d'y aller. Donc, il faut que... C'est bien de reconnaître son désir parce qu'on a parfaitement... C'est normal d'avoir du désir pour des personnes qui ne nous conviennent pas, mais il faut se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée ou pas ?
Voilà.
Donc là, vous en êtes à ce stade. Il y a, la réponse, elle est seulement en vous et peut-être en lui aussi, parce que lui, qu'est-ce qu'il ressent pour vous ? Quelquefois aussi, on ressent du désir parce que l'autre a du désir, même s'il ne vous le dit pas.
Voilà, donc ça, c'est à vous-même de le découvrir, Enacha. On vous souhaite une très très bonne journée à Brazzaville. On part tout de suite pour le Kenya, pour Nairobi, où l'on retrouve Frédéric. Frédéric, bonjour.
Bonjour, Caroline.
On est à votre écoute, le docteur Solano vous écoute, allez-y.
Ok, bonjour docteur.
Bonjour Caroline.
Je dis Frédéric. Oui, allez-y.
En fait, j'ai deux questions. La première question, c'est... Comment désirer si on ne se sent pas soi-même désirable ? Parce que j'ai un peu du mal à visualiser ça dans... Enfin, comment j'expliquerais ça ? En fait, je suis une personne à mobilité réduite et j'ai des problèmes avec le rapport que j'ai à mon corps. Mm-hmm. Je ne l'accepte pas forcément. J'ai des problèmes de sensibilité, j'ai des problèmes de forme avec mes jambes qui sont devenues frêles et tout. J'ai des problèmes, parfois j'ai des problèmes d'incontinence. Alors, j'ai peur parce que je me dis, j'ai du mal, ce désir-là. Comment je fais pour avoir du désir quand je me dis, arriver sur le terrain, peut-être je vais me guider dessus, arriver sur le terrain, peut-être il va avoir un corps qui ne va pas l'apprécier, qui ne va pas apprécier. Du coup, ça coupe, je ne sais pas comment vous expliquer ça, ça me coupe dans mon élan de désir. Ça, c'est la première question. Et la seconde question... J'ai un peu du mal à comprendre parce que beaucoup de personnes disent j'ai du désir. Chez moi, c'est plutôt un désir ciblé. je ne dis jamais j'ai du désir, mais je dis en général j'ai du désir pour quelqu'un. Mm-hmm. Je ne sais pas, c'est normal, c'est pas de l'immaturité sentimentale, enfin, je ne sais pas.
Vous posez beaucoup de questions. En tout cas, ces questions, elles sont vraiment très intéressantes, Frédéric, parce que déjà des auditrices ou des auditeurs qui nous appellent en étant dans votre situation, c'est très rare. Donc déjà, merci beaucoup, merci de cette question, parce que ça montre que tout le monde se pose des questions et c'est tant mieux. Et on le sait, mais c'est mieux de le dire. Et puis aussi, c'est parce que moi, sur votre dernière question, on dit qu'on a du désir. Est-ce qu'on a du désir pour quelqu'un? Est-ce que c'est immature? Alors là, je vais vous laisser répondre, docteur Solano, mais... je trouve que depuis le début de votre intervention, vous faites plutôt preuve d'une grande maturité. En
oui,
tout cas.
Voilà, je me disais peut-être que vos jambes ne marchent pas très bien, mais votre intelligence, elle galope, j'ai l'impression, c'est ce que je me disais. Alors, à la dernière question, ben, évidemment que vous avez raison. L'immaturité, ce serait plutôt de dire j'ai du désir, je vais exagérer, mais sur qui je peux sauter, quoi, dans la rue. Non, pour assouvir mon désir.
J'ai du désir pour toutes les femmes, ça veut rien dire.
Ça, c'est plutôt le désir des mammifères, je dirais. Animaux, voyez, par exemple, quand un animal est en période de rut, on dit bon bah il va trouver une femelle, ouais, voilà. Non, là, nous on est des humains, donc on est plus sélectif. Et effectivement, souvent quand quelqu'un j'ai du désir, c'est peut-être parce qu'il est en couple, ou peut-être parce que c'est vrai aussi que on peut avoir un désir. Comment vous dire, je pense à un homme qui disait, un philosophe qui disait, oh c'est le printemps, toutes les jeunes femmes se mettent dans des tenues un petit peu plus légères et ça stimule mon désir. Mais ça voulait même pas dire qu'il avait envie d'aller vers ces jeunes femmes, mais plutôt que dans son couple, il y avait des petites images qui faisaient que son désir allait être peut-être un peu réactivé, voilà. Mais souvent, quand quelqu'un dit « j'ai du désir », c'est par rapport à son ou sa partenaire aussi. Ou pas, quand on...
Ok, je comprends. Le problème que ça me pose, c'est que je suis... Comment je vous expliquerai ça? Si j'aime quelqu'un, j'ai que du désir pour cette personne-là, qu'elle m'aime, qu'elle m'aime pas. Si son mandat, c'est 5 ans, j'aurai que des yeux sur elle. Et j'ai l'impression parfois que c'est de l'immaturité, mais ça m'empêche d'avancer. Quelle personne m'aime, quelle personne m'aime pas. Si.
Vous voulez dire ça vous empêche d'avancer parce que vous avez du désir pour cette personne, même si elle ne vous aime pas, c'est ça?
Effectivement.
Ah oui, alors, c'est pas de l'immaturité, c'est que vous avez un tempérament à vous attacher. Vous voyez, c'est plutôt une sorte de tempérament. Au contraire, alors, ce qu'il y a, c'est que... Comment expliquer ça? Si vous avez du désir pour quelqu'un qui vous ne désire pas, c'est vrai que c'est dommage que ça dure 5 ans. Parce que, en fait, vous perdez du temps de vie. Parce que, on dit que quand nos capteurs d'amour et de désir sont occupés par quelqu'un, il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Donc, du coup, bah, vous allez rester toute seule pendant 4 ans ou vous allez espérer. Bon, c'est normal d'attendre un peu. Puis, voilà. Et ce qui compte dans ces cas-là, c'est de ne pas cultiver ces pensées de désir volontairement. C'est-à-dire que si vous rêvez, moi, j'ai une patiente, enfin, plusieurs comme ça, qui me disent pendant 10 ans, j'ai rêvé à un homme, je pensais qu'à lui, alors que lui, il s'intéressait pas du tout à moi. Ça, c'est presque pas normal, c'est un côté presque malsain. Ça veut dire qu'on préfère cultiver l'imagination que d'être dans la réalité.
On fait une fixation.
On fait une fixation un peu. Donc à un moment, il faut être capable de faire fonctionner son cerveau en lui disant « je veux que tu penses à autre chose ».
Et tout à l'heure, vous disiez, par rapport à votre situation de handicap, de mobilité réduite, que vous aviez déjà eu des rapports sexuels. C'était avant, justement, ce problème de mobilité ou c'était après?
Non, je n'ai jamais eu de rapport sexuel.
Vous n'avez jamais eu de rapport sexuel?
Oui. Et effectivement, c'est ça qui me bloque. C'est la question, c'est ce que je demandais parce que c'est... Comment j'ai ce désir-là? Parce qu'après, il y a tous les problèmes qui sont autour du handicap, un corps qu'on n'arrive pas à s'approprier et tout ça. Et je disais que ça me bloque dans mes élans, en fait.
Oui. Alors déjà, vous avez dit comment désirer quelqu'un quand on ne se sent pas désirable. Alors là, je peux vous dire que, bien sûr, vous avez ce problème de mobilité réduite, mais presque tout le monde se pose cette question. Et d'ailleurs, ceux qui ne se la posent pas devraient se la poser. Parce qu'effectivement, encore plus chez les femmes que chez les hommes, je ne sais pas pourquoi, quand une femme ne se sent pas désirable, si elle se sent qu'elle a des kilos en trop, qu'elle a, j'en sais rien moi, qu'elle n'a pas assez de cheveux, qu'elle... comme vous, qu'elle a un problème de handicap quelque chose, ou qu'elle est trop ceci ou pas assez, qu'elle a trop de seins ou pas assez, etc. Elle peut se dire, bah moi je suis pas assez belle, donc je vais pas être désirable. Or, c'est vraiment important d'apprendre à apprécier ce qu'on a de beau et qui peut être désirable. Parce que on peut tous tomber malade, on va tous vieillir, et quand vous avez des femmes, moi j'aime beaucoup des fois avoir des femmes de plus de 70 ans en consultation, parce qu'il y en a qui disent, bah elles disent toutes, je suis moins belle qu'à 20 ans. Il n'y a pas de secret, c'est évident. Mais je suis capable de me parfumer, de mettre de la crème, de sentir bon, de me peigner d'une certaine manière pour me sentir désirable. Donc, se sentir désirable, c'est pas juste se regarder dans une glace et se dire comment je suis. C'est se dire qu'est-ce que je peux faire pour moi me sentir plus désirable. Ça, c'est important. D'autre part, d'accord, vous avez un handicap, mais si quelqu'un vient vers vous et vous désire, il le sait, c'est pas un handicap invisible que vous avez. Donc la personne, elle sait très bien comment vous êtes et elle vous prend comme vous êtes. Et sûrement qu'elle est capable de se dire, explique-moi ce qui peut se passer, ce qui est pas facile pour toi, etc. Et qu'en en parlant, ça peut se résoudre, ça peut très bien se résoudre. Il y a beaucoup de personnes qui ont des handicaps très divers, qui sont en couple quand même. Et qui sont aimés et désirés.
Vous avez partagé des moments, une intimité. Vous disiez que vous n'aviez pas fait l'amour, mais vous avez eu quand même des moments d'intimité avec quelqu'un.
Ouais, disons nous sommes arrivés à une certaine étape. Mm-hmm. Peut-être beaucoup, oui, mais bon.
Mais cette personne qui était avec vous, malgré justement, vous disiez je ne me sens pas désirable. Cette personne vous complimentait, vous disait des choses gentilles.
Ouais, c'est quand même des vieux pour me rassurer.
Vous pensez que c'est pour vous rassurer ou c'est parce que c'est vrai? Parce que là, vous êtes en train de dire pour me rassurer, mais peut-être qu'il le pensait, c'était pas que pour vous rassurer, c'est parce que c'est quelque chose qu'il pensait de positif sur vous.
Ouais, possible. C'est vrai, beaucoup de personnes me disent que je suis jolie. En fait, c'est même pas qu'un problème de beauté, c'est un problème de... J'ai par exemple une incontinence, je me dis si je me laisse aller, peut-être je vais m'uriner, peut-être... Je suis vraiment, mais vraiment pas rassurée. Bref, je ne suis pas là. Je me dis toujours que ça va aller en vrille. Et puis, j'ai des problèmes de sensibilité pour être super concentrée. Bon, c'est compliqué.
C'est compliqué, mais en même temps, ça vaut le coup peut-être d'en parler à votre médecin aussi et de se dire comment on gère ça. Parce que vous voyez, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui ont ce problème pendant un rapport sexuel, même sans vous avoir de handicap du tout, qui se disent « j'ai peur d'uriner pendant un rapport sexuel ». Parce que quand je sens arriver l'orgasme, j'ai peur. Et donc, il y a plusieurs solutions. La première, c'est de se dire « si jamais je suis en situation, je vais aux toilettes juste avant ». Comme ça... la vessie va être vide. Même si elle se remplit un tout petit peu, il y aura trois fois rien. Ensuite aussi, c'est de savoir qu'il y a des femmes qui ont ce qu'on appelle une éjaculation féminine, ce qu'on appelle les femmes fontaines, qui au moment de l'orgasme perdent du liquide qui vient de la vessie. C'est un petit peu peut-être différent de l'urine, mais c'est une sorte d'urine. Et donc du coup, ça arrive même à des femmes qui ont absolument aucun handicap. Donc c'est pas forcément quelque chose d'abominable non plus. Hein.
Et vous avez parlé justement de vos questions sur la sexualité à votre médecin?
Disons, je suis plus suivie, mais j'avais un médecin avec qui on avait programmé ça, mais ça n'a pas pu se faire.
Donc, c'est vraiment quelque chose à faire.
Mais j'ai beaucoup lu dessus.
C'est peut-être pas trop tard pour le faire.
Oui, je vais faire ça.
Parce que vous êtes toute jeune en plus, ça serait dommage d'attendre 10 ans avant de vous donner la permission d'avoir des relations sexuelles et un amoureux.
Donc, vous allez faire ça, Frédéric. On vous souhaite une bonne journée à Nairobi. Très bonne journée. On retourne à Brazza, le Congo. Émilie en ligne. Émilie, bonjour.
Bonjour. J'ai 28 ans.
Oui.
J'y vais tout droit. Alors, j'ai 28 ans. Je ne parviens pas à perdre tous mes moyens durant un orgasme. Alors, je ne me reconnais pas dans les idées reçues. Est-ce que cela est dû et ou lié à mon enfance, l'abandon de mon père et au mariage peu reçu de pas réussi de ma mère et mon beau-père? C'est-à-dire qu'il y avait des disputes et des violences conjugales. Alors, je n'arrive pas à faire confiance aux hommes et je me sens toujours mieux célibataire.
Vous sentez alors, mieux?
Cela nuit à tout... Oui, cela nuit souvent à mes relations. C'est que lorsque ça ne va pas très bien dans mes relations et que je tente tout pour le tout pour que ça aille mieux, et finalement, quand je n'obtiens pas gain de cause, je suis souvent la première à quitter mon compagnon, à dire, on se sépare et je me sens toujours mieux célibataire, en fait.
Émilie, en fait, quand vous en parlez, on vous sent un petit peu tendue, vous posez beaucoup de questions. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez, par exemple, avec vos amis?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Et en fait, ce que vous voudriez, c'est plus de stabilité, vous sentir mieux dans votre peau par rapport à tout ça.
Oui, il y a à peine, je vais dire qu'il y a à peine 3 ans, j'ai pu rencontrer finalement mon père biologique. Excusez-moi, parce que je suis nue.
Oui, bien sûr.
Mmh. Et donc, on a discuté et ça s'est pas très bien passé. Je entends lui, c'était quelqu'un qui ne regrettait pas en fait ce qu'il avait fait, l'abandon. Et donc, j'ai dû garder ça pendant des années. C'était très difficile à vivre. Et en fait, à chaque fois que je suis avec un homme, j'ai l'impression que je revois mon père, en fait, et que je vais me sentir de nouveau abandonnée, quoi.
Alors, moi, je vais vous dire plusieurs choses. La première, c'est votre orgasme. C'est tout à fait normal ce que vous décrivez. On perd pas forcément totalement la tête. On n'est pas forcément totalement déconnecté. De ce côté-là, vous fonctionnez tout à fait normalement. D'accord. Là, je peux vous rassurer totalement, hein, parce que entre ce qu'on raconte et la réalité, il y a souvent une marge. D'accord. Deuxième chose, ce que je vais vous conseiller quand vous aurez un ami la prochaine fois, c'est de le prévenir, de lui dire, tu sais, moi, j'ai été abandonnée par mon père et au bout d'un moment dans une relation, je suis angoissée, je suis pas en confiance. Et donc, quand ça va se produire, il faut que tu m'aides. Si c'est quelqu'un à qui vous tenez, évidemment, hein, vous n'êtes pas obligé de le dire dans les 5 minutes. Voilà, voilà. C'est important parce que ça peut permettre à cet homme de vous comprendre. Sinon, il va rien comprendre pourquoi vous partez alors que vous êtes bien.
Oui, mais est-ce que ce partenaire va pas demander, dans ce cas-là, Émilie, c'est quoi le rapport entre ton père et moi? Hein, je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais bon, la question peut se poser. Là, on est en train de passer un bon moment, même... un moment de tendresse, et tu me parles de ton père. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans?
C'est plutôt, c'est ce que disait Émilie, c'est ce que vous disiez. J'ai du mal à faire confiance aux hommes parce que mon père m'a abandonnée et qu'en plus, il ne le regrette pas. Donc, pour lui, c'est normal d'abandonner sa fille, en gros. Et donc, l'idéal, ça serait quand même, là je parle de votre relation avec votre futur amoureux, mais l'idéal, ça serait quand même que vous puissiez faire un travail sur vous, en parler, exprimer ça à un thérapeute. L'idéal, ça serait de trouver un thérapeute, un psy qui soit un homme de confiance, avec qui vous vous sentiez en confiance, parce qu'on dit souvent qu'un thérapeute, c'est un deuxième père ou une deuxième mère. Donc si c'est quelqu'un qui peut vous soutenir, en qui vous pouvez avoir confiance... Si vous arrivez à faire confiance à un homme, pas dans une relation amoureuse, mais dans une relation thérapeutique, ça pourrait vous aider par la suite à pouvoir faire confiance à un homme. Vous voyez ?
Émilie, est-ce que vous envisagez justement d'aller en parler à un professionnel, à un psy ?
Non, parce qu'en fait, ce domaine n'est pas très... C'est pas vraiment un domaine qui est répandu, comme on vous a dit. Généralement, la thérapie, on fait notre thérapie tout seul, en fait. Et des fois, on en parle à une ou deux amies qui peuvent nous comprendre ou qui sont dans la même situation que nous. Et puis voilà, on essaie de trouver toute seule des solutions en lisant des bouquins ou en allant faire des recherches sur Internet.
C'est ce qu'on comprend bien quand on vous entend parler, parce que tout de suite, vous avez fait la connexion entre votre enfance, cet abandon, etc. Mais peut-être maintenant que vous avez un petit peu défriché le terrain, il faut confier votre paquet à un professionnel, à quelqu'un qui pourra vous aiguiller. Bien sûr, il y a la question matérielle. Vous avez les moyens d'aller voir un psy?
Oui, bien sûr, j'ai les moyens d'aller voir un psy. Après, j'avais un ami avec qui j'ai été, et quand je lui disais, j'ai eu un problème avec mon père, j'ai été abandonnée, tout ça, il me dit, écoute, t'es pas la seule à avoir été abandonnée. En fait, il comprend pas.
C'est pour ça qu'un psy pourrait davantage.
Bien sûr, pourrait vous aider. Pas seulement, si vous voulez, c'est pas seulement en parler, mais aussi à réparer ça. Et je prends par exemple, on fait des fois des séances, on demande à une jeune femme, imaginez un homme en qui vous auriez confiance, que ce soit un acteur, que ce soit même quelqu'un de votre famille, un oncle, quelqu'un, et imaginez-vous avec lui de manière à vous aider à activer cette confiance.
Une projection, une visualisation, et puis donc ce conseil que vous a donné le docteur Catherine Solano, hein, d'aller consulter, oui. C'est vraiment la meilleure solution pour vous, Émilie. On vous souhaite une excellente journée. Merci, docteur Catherine Solano, toutes ces réponses à nos auditrices, surtout aujourd'hui.
Je suis contente d'avoir beaucoup d'auditrices.
Et à très bientôt sur RFI dans Priorité Santé. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, la fabrique et la prépare. Beverly Santou, Assetou Samaké, Didier Bleu, Laurence Nau. Demain, nous nous retrouvons avec un reportage signé Igor Strauss à l'île Sud, dans les pas de Wassim, médiateur de santé. Il travaille pour favoriser l'accès aux soins des personnes en situation de précarité. Reportage à retrouver à 9h10, temps universel.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Faites comme tous nos clients prévoyants, mettez à l'abri ceux qui vous sont chers. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.